Bonsoir et bienvenue dans la séance du dimanche. Que vous nous écoutiez en direct sur Radio Campus Paris ou en podcast sur toutes les plateformes disponibles, vous êtes en bonne compagnie, puisque vous êtes en compagnie du collectif Vitamine Ciné. Bonsoir Lucas, bonsoir Louis, bonsoir Adeline et bonsoir Victor.
Bonsoir Nico.
Bonsoir. Bonsoir.
Dans cet nouvel épisode hors série de la séance du dimanche, nous allons revenir comme l'année dernière sur le Festival des Étoiles du documentaire organisé par la SCAM, qui aura lieu du 5 au 7 novembre 2021 au Forum des Images, donc en plein cœur de Paris. C'est un festival totalement gratuit, l'entrée y est libre, et pendant 3 jours vous pourrez assister à une trentaine de films et de rencontres. Donc comme l'année dernière, nous allons revenir, le temps de cette fois-ci 1h30, sur 8 films que nous avons pu voir en avant-première avant leur projection le week-end prochain à la SCAM, au Forum des Images, pardon. Et donc on va commencer tout de suite avec un film qui s'appelle Un été à la Garoupe, et c'est Louis qui va nous le présenter.
Et oui, c'est un film qui a été réalisé par François Lévy Quentz, qu'on a eu tous les quatre la chance de rencontrer grâce à notre master. Donc on l'a rencontré à la SCAM, notre partenaire du jour. C'était autour de son film La face cachée de l'art américain, pardon. Et en fait, quand on creuse un petit peu la filmographie de ce réalisateur, on voit que beaucoup de ses films tournent autour de l'art comme sujet principal. Et les artistes, les portraits d'artistes aussi, donc Marc Chagall, Dali, Yves Klein et j'en passe. Et on lui avait posé une question, je me souviens lors de cette rencontre, c'était quel est votre prochain projet ? Et il nous avait dit avoir récupéré des images appartenant à Man Ray. Et ces images, donc il les a récupérées, il en a fait un film, et c'est Un été à la Garoupe, dont on va pouvoir parler. Donc pour pitcher peut-être un petit peu ce film. Il se passe à l'été 1937 et l'artiste Man Ray, donc avec sa compagne Adi, retrouve 3 autres couples pour passer quelques jours de vacances à Mougins, une ville dans le PACA. Ces couples, c'est Picasso et Dora Maar, Paul Hénuche et Luard, Lee Miller et Roland Penrose. Et cet été-là, Man Ray apporte une caméra et tourne un film nommé La Garoupe. Donc le film de Lévy Quentz, il se présente sous le format d'un 52 minutes. Comme un journal de voyage, tout archive, avec 2 voix off, à la fois pour retracer un petit peu cet été, et pour lire des extraits d'écrits de ces artistes. Il y a des vidéos, donc certaines tournées par Man Ray, des photos, dont certaines prises par les artistes qui étaient présents, et des œuvres. Et je vous propose d'écouter un petit extrait qui va nous plonger dans l'ambiance de cet été-là.
Un pique-nique sur la petite île déserte de Sainte-Marguerite, comme un écho au déjeuner sur l'herbe de Manet. La tête renversée en arrière, Nouche se laisse embrasser par Paul, sous le regard complice de Man et d'Adi. Cet instantané célèbre de Lee Miller éclaire les mœurs libérées de ses amis surréalistes.
Je trouve cet extrait intéressant parce que pour moi, il résume bien le propos de ce film, en fait. On voit comment les uns et les autres se sont rencontrés, quelles étaient leurs relations, quelles relations ils ont nouées avant cet été-là, quelles relations ils ont nouées pendant cet été-là, et puis comment ils s'inspirent aussi artistiquement les uns et les autres. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, on voit que c'est vraiment l'amitié et la passion pour l'art qui les a réunis, qui les relie les uns aux autres. Et j'ai trouvé aussi intéressant le propos qui arrive surtout à la fin et qui raconte, je trouve, la fin d'une époque, celle où les surréalistes qui avaient voulu changer le monde pendant un temps prennent conscience d'un avenir qui s'assombrit, qui s'obscurcit, parce que en toile de fond, bah, y a la guerre d'Espagne qui bat son plein, la montée des extrêmes aussi un peu partout en Europe. Et donc j'ai trouvé que mettre tous ces propos un petit peu en relation, c'était très intéressant dans le fond du documentaire. Par contre, sur la forme, au-delà de quelques idées de montage et de cadre pour mettre un peu en valeur les archives, je trouvais que formellement, il n'y avait rien de vraiment innovant, donc je suis resté un petit peu sur ma faim à ce niveau-là, mais je ne vois pas ce qu'il aurait pu faire de plus. Vous, je ne sais pas quel intérêt vous avez porté à ce documentaire.
Mais je trouve que c'est un documentaire très agréable à regarder, qui se tient bien limite. On aurait voulu que ça dure même plus longtemps. C'est évidemment, il y a des impératifs de diffusion qui ne permettent pas de sortir des 52 minutes. Mais c'est une ambiance légère qui est propice à la découverte lors de cet été à la Garoupe, comme s'appelait cette pension de famille. Et donc Man Ray est au cœur du film, quoi. On entend sa voix off. Finalement, ce n'est pas lui qui parle, mais il y a une voix off de Man Ray qui est reconstituée en partie dans le film. Et ce qui est bien, c'est que ça se confond avec aussi la vie des autres artistes. Donc on entend évidemment sa voix, mais il y a ce fil de pensée qui relie tous les artistes entre eux, qui nous permet de les présenter sans que ça soit trop didactique non plus. Mmh. Il y a évidemment Picasso que tout le monde connaît, des artistes qu'on peut un peu moins connaître, par exemple Lee Miller, qui est une grande photographe très connue. Personnellement, je ne la connaissais pas. Et c'est bien parce qu'il y a une partie du film, un petit segment qui est axé sur elle, puis qui présente Nouche, puis qui présente Picasso et sa relation sadique et criminelle même, oui, envers Dora Maar. Donc voilà, il y a une phrase, je trouve, dans le documentaire qui résume bien ce qu'est le documentaire, qui dit « La vie quotidienne se confond avec la création, à moins que ça ne soit l'inverse. » Donc je trouve que ça résume bien ce documentaire.
Ouais, bah, moi aussi j'ai bien aimé ce docu. Alors je suis d'accord avec toi, il n'y a rien vraiment d'innovant formellement, mais il n'y a pas vraiment besoin, et je trouve le dispositif quand même très bien fait. Enfin, c'est pas si simple finalement avec des archives de la fin des années 30, de faire quelque chose d'assez rythmé, de jovial. C'était limite une petite sucrerie, je trouvais. C'était vraiment très léger, comme tu l'as dit, ça passait très bien. Mais voilà, c'est pas parce que, enfin, un film n'a pas forcément besoin d'être innovant, et là ça passait bien. Et moi, il y a aussi quelque chose qui m'a intéressé. Alors je sais pas si c'est vraiment une volonté du réalisateur de faire passer ce message-là, mais c'est sûr qu'on a souvent une manière de voir les artistes comme des gens un peu hors sol, un peu différents de nous, et c'est un peu vrai, puisque par définition un artiste est hors sol puisqu'il a une vision de la vie différente de nous et qu'il essaye de retranscrire à travers ses œuvres. Sauf que là, avec le thème des vacances, forcément, je trouve que ça a donné un côté vachement humain à ces Picasso, à ces Éluard, voilà, des noms en fait qui peuvent paraître comme ça impressionnants, mais en fait on se rend compte qu'ils obéissent aux mêmes instincts que tout le monde, et que c'est quasiment un moment à les feux de l'amour, quoi. Il y a de la trahison, il y a de la jalousie, il y a des amours, des amourettes. Donc je trouvais ça assez tendre et assez intéressant, même si, comme tu l'as dit, il y a quand même, on voit quand même que ce sont des artistes à travers leurs œuvres, et oui, on découvre certains artistes, et c'est un plaisir. Donc il y a quand même évidemment tout ce côté artistique qui n'est pas à nier.
Moi, j'ai une question pour toi, Louis. Est-ce que tu sais si le film, en fait, il a une visée de diffusion qui est pour la télévision? Parce que je pense qu'il faut revenir à ça aussi.
Oui, c'était le cas, oui.
C'est ça, c'est aussi par rapport au format.
Ah oui, le 52 minutes, tout à fait, oui.
C'est ça, et je pense que ça va être un peu un fil rouge sur le reste de la séance. Mais c'est vrai qu'en fait, tous les documentaires sont différents.
Oui.
Et notamment du fait des formats et du fait de la visée. Et la visée télévisuelle, c'est quelque chose de beaucoup plus... beaucoup plus lisse en soi, en fait on a moins un moyen.
Et parfois même la télévision impose un certain traitement des archives qui n'est pas toujours très judicieux, et là je trouve que on n'a pas senti, en tout cas, tu vois, il n'y a pas eu de colorisation des archives, il n'y a pas eu, ça répond pas à certaines normes parfois.
Il n'y a pas d'étirement des archives.
Il n'y a pas d'étirement, c'est pour ça que j'ai trouvé, je dis formellement, il n'y a rien de vraiment innovant, mais il n'y a pas besoin, mais parfois, ouais, il y a un cadre qui est rajouté pour certaines images, pour justement éviter, trouver d'autres choses, pour éviter d'étirer les images, les archives. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très bien.
Oui, c'est ça, c'est la particularité de ce réalisateur, c'est que je pense que François Lévis-Kuntz, dans l'histoire de l'art américain,
La face cachée.
La face cachée de l'art américain.
Mais qui raconte son histoire.
Il prend des points de vue très, très précis, et en fait, il révolutionne, je trouve, le documentaire télévisuel dans une façon de faire qui est assez novatrice. Et pour autant, en fait, rester dans des cadres qui sont celles de la télévision, et quelque chose qui est imposé. Et encore une fois, du coup, je pense que on verra dans les autres documentaires, mais chaque documentaire, la question qu'il faut se poser, c'est sa visée, quelle est sa question de diffusion, si c'est une question de cinéma, etc.
Et donc évidemment, on vous en reparlera quand ça sera diffusé à la télé, on imagine, sur Arte ou sur France 5. Je reviens à cette case pour ces documentaires. Mais avant de passer au prochain film, je crois que tu nous as préparé un petit jeu, Louis.
J'ai concocté, oui, un petit jeu autour d'une des figures présentes dans ce film, Picasso, avec une vie, il a eu 1000 vies, hein, Picasso. Donc je vous propose quelques anecdotes autour de sa vie, à vous de me dire si elles sont vraies ou fausses. Je pense vous présenter les anecdotes, et que chacun à votre tour, donc en commençant par Adeline, en finissant par Lucas et avec Victor... qui va prendre plaisir à participer, que vous me disiez si pour vous elle est vraie ou fausse. Je compte les points, et à la fin on désigne un ou une vainqueur. Alors, Picasso, déjà, parlons de son état civil. La musique est super.
Galaxy. Un petit bonus.
N'a pas 2, mais 23 noms pour composer son nom. Est-ce que c'est vrai ou faux, Adeline?
Je dirais que c'est vrai.
Je dirais que c'est vrai aussi. Je crois que je suis déjà allé sur sa page Wikipédia où tout est listé.
Et que ça prend une page, du coup. Exact. Pour son nom.
Franchement, c'est tellement aberrant que je pense que c'est vrai aussi.
Oui, pareil. Je vois pas comment t'aurais pu inventer ça, donc je vais dire vrai aussi.
J'aurais pu modifier le chiffre aussi. Mais du coup, je vais prendre une grande respiration. Et je vais vous parler de Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomucecano Maria de los Remedios Cipriano de la Santissima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruiz y Picasso, ce qui fait 23 noms et vous avez tous les deux tous les quatre un point.
C'est pratique pour l'appeler.
Il vaut mieux l'appeler Pablo Picasso. Je comprends son nom d'artiste.
La carte d'identité devait être fournie.
Du coup, ce Pablo Picasso commence sa carrière et dans sa jeunesse, alors qu'il n'est pas encore très connu et afin de se chauffer, aurait brûlé plusieurs de ses tableaux. Est-ce que vous pensez que cette anecdote est vraie ou fausse ?
J'ai très peu d'estime pour Picasso, donc je pense que c'est faux. Il a trop d'ego.
Il a beaucoup d'ego, mais je dirais que c'est vrai et que ça participe à sa légende d'artiste.
Ouais, il était subversif, donc je vais dire que c'est faux aussi.
Je dirais faux aussi.
Eh bien, c'était vrai. Dans sa jeunesse, pour se chauffer, il a brûlé plusieurs de ses tableaux. Donc, je crois que c'est un point pour Nicolas. Ensuite, il a une carrière très prolifique. Ça marche bien pour lui. Et Picasso a peint plus de 3000 tableaux dans sa carrière. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Je continue sur ma lancée et je dirais que c'est faux. C'est moins, pour moi.
Moi, je dirais que ça dépend ce qu'on entend par tableau. Vu qu'on voit aussi dans le documentaire qui est des fois dessiné sur un coin de nappe. Et je me dis que ça pourrait être considéré comme un tableau tellement il avait un gros ego et une grosse aura. Donc moi je dirais que c'est vrai encore une fois.
Je suis d'accord avec la définition. Si tableau c'est un petit griffon, ouais. On va dire vrai. Allez.
Moi je dirais faux mais plus que 3000. Parce que, un peu la même logique que Nicolas, et dans un documentaire d'Henri-Georges Clouzot, évidemment, qui s'appelle Le Mystère Picasso, on voit qu'en fait, il ne fait que ça, il le fait très vite, et c'est instinctif, et donc je dirais plus.
Alors, il n'a pas fait que des tableaux, mais des tableaux, il en a fait beaucoup, mais moins de 3000. Il en a fait 1800, à peu près, on compte 1800. Mais du coup, c'est encore un point pour Nicolas et un point pour Lucas qui ont répondu faux.
Et non.
Ah non?
Ah non, non. Si, j'ai dit si. Faux.
Oui, mais moi j'ai dit faux aussi.
Ah, t'as dit faux?
J'ai dit faux, j'ai dit faux, moins 3000. Et lui, il a dit plus.
Ah, d'accord. Alors, je rajoute
un
point.
Mais ça reste faux.
Pour Aline, oui, pardon.
Du coup, ça reste vrai.
Parmi ces 1800 tableaux, 550 seraient portés disparus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Ça, je pense que c'est vrai, notamment par la guerre. Et je sais qu'il y avait une anecdote où on avait retrouvé des tableaux à lui d'un jardinier ou d'un truc comme ça que la famille avait porté plainte.
S'il en a brûlé en plus dans sa jeunesse, je reste sur c'est donc vrai.
C'est un bon raisonnement, c'est vrai.
Vrai aussi parce que je vais suivre les gens vu que je fais que de la merde.
Je dis vrai aussi.
Bien, vous marquez tous un point, c'est vrai.
Il
me reste deux questions. Autoportrait est le premier tableau de Picasso vendu à plus de 100 millions de dollars.
Faux, je dirais que c'est les Demoiselles d'Avignon en premier.
Moi je sais pas, donc je dirais vrai.
Je dis qu'il est connu, donc je vais dire vrai.
Moi, je dirais faux, mais j'en sais rien.
Bah, Lucas et Ali, vous marquez tous les deux un point. C'est faux, c'est le garçon à la pipe qui a été vendu à ce prix-là. 100 millions de dollars, c'est quand même une somme, en 2004. Et ma dernière question. En 1911, Picasso a été interrogé par la police au sujet du vol de la Joconde, après que Guillaume Apollinaire l'en ait accusé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
C'est totalement vrai.
C'est, je dirais vrai, j'ai vu une vidéo que je recommanderai peut-être plus tard qui en parlait.
Adeline avait l'air tellement certaine que je vais dire que c'est vrai.
Fiche Wikipédia.
Non, je suis pas le mouvement, moi je dis faux.
Eh bien, c'était totalement vrai, et en recomptant les points, c'est Adeline qui sort grande vainqueur de ce jeu.
Eh ben, c'est à souligner. C'est vraiment fou. Et par ailleurs, j'allais aussi proposer la même recommandation que Nicolas, mais je lui laisse la parole.
C'est une vidéo de Manon Bril qui s'appelle, donc il y a une chaîne qui s'appelle C'est une autre histoire, et qui dans un court film d'animation, elle en sort tous les mois sur sa chaîne, le premier mercredi du mois quand la sirène retentit. C'est une vidéo qui revient donc sur Picasso et sur en quoi c'est un artiste problématique et est-ce qu'on peut ou pas encore apprécier ses œuvres. Et c'est très intéressant comme vidéo. Donc,
voilà. Je crois que le nom est Pourquoi Picasso est un gros connard, non?
Oui, un truc dans le genre.
Mais on peut quand même apprécier ses œuvres.
Exactement, c'est le bilan de sa vidéo d'ailleurs. Et bien, merci beaucoup Louis pour ce jeu. On passe tout de suite au deuxième film de ce soir. Non, juste avant, je vais préciser que Un état à la garoupe est diffusé le 7 novembre à 11h au Forum des Images, si jamais vous avez envie de le voir, et on le recommande chaudement. On passe au film suivant, qui s'appelle Histoire d'un regard, et on écoute tout de suite un petit extrait.
Vous allez faire la première à l'Olympia, il faut trouver à chaque fois la petite histoire, trucmuche avec trucmuche, qu'on va vendre le lendemain, France Dimanche ou ici Paris, oui. Tout ça.
C'est intéressant de voir quand il fait des photos et quand il n'en fait pas. Donc quand il rentre dans la vieille ville, pourquoi il photographie par là ? C'est quand même mis au bon endroit, parce que lui, il a vu avant et après.
À travers son regard, Gilles Caron nous raconte l'histoire de son époque. Il nous raconte aussi son histoire.
Et donc, vous avez entendu la bande-annonce d'Histoire d'un regard, qui est un film de Mariana Otero et Jérôme Tonnerre. Et donc, le regard en question, c'est celui de Gilles Caron, un photographe disparu à l'âge de 30 ans au Cambodge. Gilles Caron, c'était un photographe donc très jeune, qui en 6 années de carrière a fait plus de 100 000 photos, et des photos très célèbres qui ont marqué leur temps, qui apparaissaient notamment en couverture ou à l'intérieur de Paris Match. Des fois, c'était même un journaliste qui avait deux reportages photos dans le même numéro. Et il a couvert en quelques années toute la planète. Il a fait mai 68, le Nigeria, le Tchad, le Vietnam et le Cambodge. Et donc c'est vraiment toute une partie de l'histoire que l'on voit à travers son regard. Et le film se concentre autour d'une femme qui redécouvre ses photos grâce à un livre qu'un ami lui a donné, et qui va au fur et à mesure, en redécouvrant ses photos, redécouvrir le regard et la mise en scène qu'il y a derrière ses photos. Donc elle va prendre toutes les planches contact. Donc à l'époque, quand on prenait encore des photos en pellicule, il y avait 36 poses sur le... Enfin, en tout cas pour lui, il y avait 36 poses sur chaque planche, et elle va essayer de démêler quelle planche vient avant l'autre et comment le regard du photographe est allé prendre ceci plutôt que cela en photo. Et il y a, on voit des historiens de l'art qui interviennent dans le film et qui recontextualisent la photo et en quoi elle est importante aussi à son époque. Par exemple, il y a une magnifique scène où Gilles Caron était photographe pendant la guerre des Six Jours, donc il a opposé Israël aux pays voisins. Et on voit que sans se rendre compte, sans faire exprès presque, il se retrouve devant le mur des Lamentations, qui n'avait pas été vu par des Israéliens depuis des décennies, voire des siècles, je crois. Ils disent 2000 ans, mais je crois que c'est un peu moins. Et donc on voit comment il va se rendre compte, par exemple, à travers cet exemple, comment il va se rendre compte qu'en fait il est devant le mur des Lamentations, et comment il va commencer par prendre un paysage entier en photo, puis se concentrer sur un soldat, sur une femme qui passe, ou sur un quartier qui va être détruit un peu plus tard. Et donc tout le film, c'est vraiment l'histoire d'un regard, mais aussi l'histoire de toutes les années 60, et je trouve que c'est un film assez émouvant. Donc Louis, tu l'avais recommandé il y a quelques émissions,
oui.
Donc je vous tourne déjà vers toi, qu'en as-tu pensé ?
C'était lors de notre récap de 2020, on avait parlé d'une année prolifique pour les documentaires, et j'avais notamment abordé celui-là que j'avais bien aimé. Comme tu l'as dit, ça retrace donc la vie de Gilles Caron, mais à travers ses photos, c'est ça que j'ai trouvé très original et très bien pensé. Donc Mariana Otero, elle mène son enquête, mais à partir des clichés, c'est ça que je trouve vraiment... Pour raconter son regard, le regard singulier de ce photographe, le fait de prendre ses photos pour mener l'enquête, je trouvais que le fond et la forme se mêlaient bien, et c'est pour ça que j'avais beaucoup apprécié ce documentaire au moment où je l'avais vu. Je retiens la même scène que toi, la scène avec l'historien de l'art qui vient et qui essaye d'éclairer un petit peu, d'éclaircir un peu tout ce qu'il a pu voir, lui, le photographe, pendant la guerre des Six Jours, ces photos magnifiques du mur.
Il y a une carte géante.
Ils accrochent les photos sur le mur, il y a une carte géante, ils essayent de retracer ça. Ce côté un peu enquête, vraiment, qui m'a beaucoup plu. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi la séquence sur la photo très connue de Cohn Bendit en mai 68 devant Paris 1, cette photo qu'on connaît tous. Et là, en allant chercher les planches contact, on voit comment est-ce qu'il a construit cette photo, qu'il en a pris plein, et que c'est celle-là qui est ressortie un petit peu par hasard. C'est un coup du hasard d'avoir cette superbe photo. J'ai trouvé ça très très intéressant comme documentaire.
Et c'est très cinématographique, parce que c'est vraiment de l'analyse de mise en scène, mais vraiment au plus pur niveau. Déjà, c'est toute la scénographie, vraiment, comme tu disais, des photos qui sont accrochées au mur chronologiquement, etc. C'est vraiment, on a l'impression de voir chaque photogramme d'un petit film qui
est
les uns après les autres. Et donc oui, c'est vraiment passionnant dès qu'on s'intéresse au cinéma de voir cette naissance de la mise en scène, j'ai envie de dire. Et c'est quelque chose que c'est une problématique qu'on retrouvera sur un documentaire dont on parlera en fin d'émission. Toi, Lucas, qu'en as-tu pensé de l'histoire d'un regard ?
Bah évidemment, Histoire de regard, déjà, c'est un titre qui ne ment pas. Et ça, c'est agréable, parce que c'est l'histoire vraiment du regard de ce photographe. où, bah, comme vous l'avez dit, chaque photo est questionnée. Alors évidemment, il y a beaucoup de suppositions dans les analyses, mais c'est aussi ça l'intérêt d'une photo, c'est qu'elle ne nous dise pas tout, qu'il y a une part de mystère et d'ouverture pour qu'on puisse justement s'engouffrer dans des suppositions. Et là, oui, effectivement, t'as cette photo de Daniel Cohn-Bendit qui fait face avec un sourire narquois à ce policier qui est... Enfin, l'analyse est vraiment passionnante et à la limite, elle était trop passionnante parce que je trouvais le reste peut-être pas à la hauteur de cette analyse. La suite étant tendant un peu plus vers la vie de Gilles Caron en tant que tel, mais ce qui est tout aussi intéressant. Mais c'est vrai que moi, j'ai préféré dès qu'on touchait à l'analyse d'une photo et à son contexte. Et un autre point fort que j'ai trouvé à ce documentaire, et qui est d'ailleurs un point fort d'un autre documentaire sur lequel on reviendra tout à l'heure, c'est le rôle des silences et des blancs. Parce que c'est un de ces documentaires qui n'a pas peur de laisser des silences, et ça j'aime bien, à condition qu'ils soient bien placés. Et en fait, ça nous rend vachement actifs devant les photos. On n'est pas juste à l'écoute de ce que nous dit la réalisatrice. Nous aussi, on se plaît à faire en fait des suppositions sur comment a été prise la photo, qu'est-ce que Gilles Caron a voulu montrer, et je trouve ça assez fort.
Et d'autant plus que en fait le point de vue est assez inédit, puisque souvent, peut-être on en reparlera plus tard, mais les documentaires sur les photographes sont souvent basés sur des photographes artistiques, des photographes qui exposent, etc. Et que en fait il y a tout un côté de la photographie de presse qui est pas forcément exploité dans les documentaires. Et notamment tout le documentaire Netflix sur le petit Grégory qui va beaucoup plus aller à l'encontre de la photographie de presse n'est pas une photographie artistique entre guillemets. Et Gilles Caron, c'est vraiment son travail, c'est le fait qu'en fait il y a aussi une dimension économique à sa photographie, et une dimension du coup, et c'est aussi là tout l'enjeu de l'analyse de Daniel Cohn-Bendit, enfin de la photo avec Daniel Cohn-Bendit, c'est qu'il y a aussi l'intérêt du jeu et de la complicité entre deux personnes qui sait que la photo va marcher. Et c'est ça que je trouve fou, c'est le fait qu'il y a aussi une dimension économique et presque de popularité à la photo, une analyse qui, en soi, va se différencier d'autres documentaires sur la photographie, comme celui sur Vivienne Meyer, ou quelque chose qui va plus questionner vraiment un photographe, Bresson, ou des choses comme ça, différent, enfin la photographie en tant que telle, et qui a vraiment aussi cette dimension vraiment... de la photographie de presse, et je pense que c'est un des photographes de presse qui est le plus connu et qui aussi a la plus grande singularité.
Eh bien, merci Adeline.
Avec plaisir.
Et c'est un documentaire qu'on peut retrouver dans la catégorie Les Arts Puissants, car j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais les 8 documentaires qu'on a choisis font partie de 8 catégories qui sont présentées aux formes des images. Donc il y a certains films qui appartiennent à 2 catégories, d'autres à une seule catégorie. Et pour plus de précision, Un été à la Garoupe appartenait à la catégorie Évasion. Et maintenant, on va s'évader dans les arts, toujours. Avec toi, Lucas, tu nous parlais de Jacques Brel, je crois.
Oui, parce que le prochain documentaire est consacré à Jacques Brel, ou plutôt à l'une de ses réincarnations. Je vous en dirai plus tout à l'heure, parce qu'avant, on va faire une petite piqûre de rappel sur ce grand monsieur qu'est Jacques Brel, avec 4 questions, et dont la première est... Alors, vous levez la main quand vous avez la réponse, enfin, vous manifestez, on va pas compter les points, c'est juste... pour apprendre, connaissez-vous le nom du grand producteur et directeur artistique qui a permis à Brel de faire ses débuts ?
Non.
C'est un nom qui va peut-être vous dire quelque chose, mais c'est normal, puisque c'est un homme de l'ombre qui n'est pas connu, alors que quand je vais vous dire les artistes qu'il a propulsés sur le devant de la scène, vous allez être étonnés. C'est Jacques Canetti, donc vous dit peut-être quelque chose. C'est un immense découvert de talent de la seconde moitié du XXe siècle, et donc il a notamment permis... à des Jacques Brel, Édith Piaf, Charles Trenet, Juliette Gréco, Aznavour, Serge Reggiani, Jeanne Moreau et j'en passe, de faire leur début. Alors évidemment, toutes ces personnes auraient peut-être fini par percer un jour, mais c'est clair qu'il a repéré leur talent et il leur a permis d'être projeté plus tôt sur les feux de la rampe. Donc Jacques Canetti, grand monsieur. Alors Jacques Brel, c'est aussi une carrière de cinéma. Il a plaqué la musique, je crois, dans les années 60 pour se consacrer à sa carrière de comédien. Mais alors, est-ce que vous savez dans quel film de Claude Lelouch, sorti en 72, joue-t-il un truand qui enlève Johnny Hallyday pour se faire de l'argent ?
L'aventure, c'est l'aventure.
C'est évidemment L'aventure, c'est l'aventure, film culte. Et d'ailleurs, puisque nous parlions dans une émission précédente d'Aldo Machon avec Mektoub My Love de Kechiche, il est à noter que dans L'aventure, c'est l'aventure, il y a une scène culte où justement Jacques Brel apprend donc cette fameuse démarche de macho, Aldo la classe, par Aldo Machon lui-même, qui joue aussi dans le film. Alors ça, c'est un film dans lequel il joue, mais il a aussi réalisé deux films. Est-ce que vous savez quel est le nom de son premier film, Jacques Brel ?
Pas du tout.
Absolument pas.
Totalement inconnu, qui s'appelle Franz, dans lequel il joue d'ailleurs aux côtés de Barbara. Donc, et d'ailleurs, son deuxième film s'appelle Le Far West, et dont le scénario est apparemment influencé par Luis Buñuel. Donc ça donne
envie.
Très envie. Et enfin, dernière question, quelle grande chanteuse américaine a repris son titre célèbre Ne me quitte pas ?
Aretha Franklin ?
Non, mais c'est de la soul.
C'est Whitney Houston ?
Non, non plus.
C'est
Tina Turner ?
Non, vous allez tous les faire là.
C'est, je ne sais pas.
Là, c'est Nina Simone, une magnifique reprise que je recommande. Mais vous écouterez ça après l'émission, puisque maintenant on va tout de suite s'écouter un extrait donc de Que l'amour, le documentaire de Laetitia Michels, qui est sûr, vous allez voir, un grand fan de Jacques Brel.
Non seulement ce sont des chansons à texte, mais qui seront toujours d'actualité.
C'est jusqu'à ça. La fin des temps, c'est ça.
Ouais. Et puis vous voyez, ça traverse tous les pays en fait, même en Algérie. Quoi.
C'est ça la qualité du travail d'un artiste, c'est parler des faits de société qui peut concerner tout le monde, tous les peuples du monde entier, et quelles que soient les époques, parce que là, il parle de, précisément de l'humain. L'humain, l'humanisme.
Tout est parti des mots. Je crois que s'il avait été vivant, je le comprendrais bien, quoi. Ça aurait été un bon pote, peut-être.
Alors, vous venez d'entendre une conversation inédite entre Charles Aznavour et Jacques Brel. Non, en vérité, c'est plutôt une conversation entre leurs deux plus grands fans algériens, voire deux plus grands fans du monde. Hein, puisque, donc, Que l'amour, donc, le film de Laetitia Michels, c'est un documentaire qui s'intéresse à Abdel, qui est un Français d'origine algérienne qui est arrivé à Paris à l'âge de 3 ans et qui, des années plus tard, tombe un peu sous le charme de Jacques Brel lorsqu'il l'a vu chanter par hasard sur une vidéo d'Ina. Et donc, depuis ce jour, il apprend ses textes, il se déguise en Brel et il chante ses chansons sur scène dans le Pays Basque. Il fait des petites tournées locales des gens qui veulent venir se divertir devant une des réincarnations de Jacques Brel. Et donc tout le docu revient sur l'histoire de ce personnage là et le fil rouge, c'est que il doit préparer un petit concert en Algérie. Il revient sur ses terres natales pour commémorer Jacques Brel en Algérie. Alors c'est un documentaire assez très touchant, très mignon. Déjà parce que le personnage donc d'Abdel, vous l'avez entendu, est hyper attachant. On l'a entendu dans l'extrait. Il dit donc à ce Aznavour algérien, il lui dit si Brel était encore vivant, ça aurait été un bon pote. Donc je trouve que ça montre vraiment toute la candeur de ce personnage qui est Abdel. Et d'ailleurs, on a l'impression qu'il a jamais de problème, ce gars-là. Alors que si, il en a. Il en parle d'ailleurs. Mais c'est plutôt dans son attitude. C'est quelqu'un qui prend tout très bien, qui a une bonne mentalité et qui est très humble, et voilà, moi je pense que le terme de candeur, pour le coup, pour ce personnage-là, ça marche. Et évidemment, c'est un documentaire de passion, c'est quelqu'un qui vous parle de sa passion, et c'est souvent c'est très difficile de ne pas être intéressé par quelqu'un qui vous parle de sa passion. Alors parfois ça peut être un peu chiant, mais là en l'occurrence pas du tout, parce que c'est fait avec une vraie tendresse. D'ailleurs, c'est à rapprocher d'un autre documentaire qu'on n'a pas sélectionné parmi les 8, mais qui est du festival Les Étoiles de la SCAM, qui s'appelle Celui qui danse, qui là, évidemment, prend le thème de la danse. Et dans les deux cas, plus dans Brel quand même que l'autre, ce qui est touchant, c'est le côté amateur. Alors, sans offense pour Abdel, mais ce qu'il fait d'ailleurs est tout à fait honnête et admirable, mais je ne suis pas un expert en chansons et tout ça, et ça a l'air très, très correct, mais ce n'est pas un professionnel. Il y a quelque chose de très amateur dans ce qu'il fait. Ses concerts, c'est devant très peu de personnes. Mais justement, je trouve ça très bien. En fait, c'est ça tout l'intérêt du docu, c'est de pas prendre un vrai professionnel ou je sais plus comment il s'appelle, ce sosie de Johnny Hallyday, ce sosie vocal qui lui, pour le coup, est un vrai professionnel qui déplace des foules. Là, Abdel, non, c'est fait avec passion toujours. Mais et je pense à cette scène assez hilarante. Où donc il arrive en Algérie, je vais pas trop divulgâcher, mais il arrive en Algérie pour son concert et il doit répéter avec des musiciens avec lesquels il n'a jamais travaillé. Et il y a donc le pianiste qui a il est un peu tard, il est un peu vieux ce monsieur, il a un peu du mal à suivre. Et, mais c'est hyper marrant et il n'arrive pas à se mettre d'accord avec Abdel, à s'accorder avec Abdel sur une note qu'il doit jouer beaucoup plus tôt, mais il ne veut pas, il ne veut pas entendre ça.
C'est vrai que tu as employé le mot d'attachant, mais c'est le premier truc que j'ai écrit sur ce documentaire, c'est que lui, il est super attachant, mais t'as l'impression que il est tellement rayonnant que tous les gens autour de lui deviennent attachants. Mmh. Il y a aussi le personnage du père, oui, qui du coup a fait, je sais plus, je crois que oui, il a fait de la prison, le père, si je me souviens bien.
C'est ça.
Et qui ne parle des fois qu'en vers.
Oui.
Et tu sens genre que.
C'est incroyable.
C'est assez rare, c'est génial. En fait, il est entouré, on dirait qu'il contamine en fait par sa passion. Tous les gens autour de lui, il ne voit que des gens qui sont passionnés par la musique. Même ce papy qui joue au piano, qui est pas très fort au piano.
Ah, je dis pas qu'il est pas très fort, c'est un vrai pianiste.
Il a du mal à être dans le même
surtout
truc.
Qu'il avoue n'avoir jamais accompagné sur du Brel. Oui. Donc c'est la première fois que
il connaît en fait il connaît que Ne me quitte pas qu'il dit voilà. Ne me pique pas.
Ah oui.
Mais du coup, en fait, c'est tous ces détails aussi du quotidien d'un musicien amateur ou semi-professionnel qui sont attachants. On voit une scène qui est marquée, c'est qu'on voit l'installation sur scène, du coup. C'est les petites scènes de village qui sont à 50 ou 100 spectateurs, ce qui est déjà beaucoup. Hein.
Oui, et puis, enfin, je disais amateur, mais c'est plus qu'honnête, hein, ce qui fait. C'est assez impressionnant,
c'est
même.
Pas, parfois, c'est
surtout que Brel, c'est très dur à apprendre. Oui, les textes de Brel, et même ça demande beaucoup d'élocution.
Clairement.
Enfin, d'éloquence, pardon.
Non, c'est même parfois assez impressionnant.
Oui, c'est vraiment très, très dur, c'est très rapide, etc.
Mais du coup, de voir cette installation où c'est lui, en fait, qui porte tout le matériel, de voir le coiffeur qui le coiffe comme Brel en parlant des petites bouclettes dans les cheveux. Oui, il y a beaucoup de petites scènes, de petits segments attachants qui font vraiment que c'est un film qui est touchant, au final. Même s'il y a cette fin qui est assez douce amère, je trouve, oui. dans ce bar.
Qui est, qui est très bien, le doux amère étant...
Qui est très, très agréable,
mais... Mais touchant, moi, c'est le premier mot aussi que j'ai mis sur ma feuille en prenant des notes. Il a un sourire communicatif, en fait, Abdel. Il est touchant, comme on l'a dit. Et j'aime bien, moi, ce genre de documentaire où on suit le bout de vie d'un homme qui vit, qui partage sa passion. Et même la deuxième partie du documentaire qui prend un peu la forme d'une quête initiatique, le retour sur ses terres en Algérie. Et puis Abdel, il porte des survêtements de l'OM, donc ça en fait incontestablement quelqu'un de très bien aussi. Et puis pour revenir très vite fait aussi sur la forme du documentaire, moi je l'ai bien aimé, je trouvais le cadre qui était toujours très soigné. Il y a des belles images, parfois de nuit, ou de lui en noir et blanc quand il monte sur scène à la façon de Brel. Le montage est efficace, t'as des alternances entre des moments de vie différents, les moments où il travaille, les moments où il est sur scène. Il y a des photos de l'Algérie, les musiques sont très bien amenées aussi, je trouve, au montage. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y ait pas d'autre voix off que la sienne. C'est lui qui se raconte, et j'ai trouvé ça très... Ça participe aussi de du côté touchant de ce documentaire sur un homme, bah oui, comme tu l'as dit, amateur, qui vit de sa passion et... C'est très communicatif.
Ouais, il y a même quelques tentatives de mise en scène aussi, un peu plus osées, on va dire, que ce qu'on a l'habitude de voir dans le documentaire. Comme, il parle de lui à la première personne et on le voit face à un miroir où il change d'habit pour un peu raconter sa vie. Une enfance plus difficile que sa vie maintenant, qui est bien rangée, qui est d'ailleurs hyper active, hein, puisqu'il a un métier, il loue des voitures, il fait du foot, il fait donc sa musique. Donc c'est vraiment un docu. Assez florissant, on va dire, grâce à Abdel.
Et c'est donc, on le rappelle, un film de Laetitia Michels que vous pourrez voir le 6 novembre à 17h. Et je propose que tout de suite, justement, on parle de Brel, ça donne envie d'écouter du Brel. Donc, évidemment, on va écouter du Brel.
Mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour, quand on n'a que l'amour. Pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson.
Vous écoutez toujours L'Essence du Dimanche sur Radio Campus Paris en podcast. Nous sommes dans cette deuxième épisode hors série de l'émission consacrée au Festival des Étoiles du Documentaire de la SCAM, édition 2021. On continue notre virée dans ces grands thèmes du festival qui aura lieu le week-end prochain avec un film, là encore, très personnel et c'est notre premier film un peu expérimental, notre premier documentaire un peu expérimental de la sélection. Ça s'appelle Ne croyez surtout pas que je hurle et c'est par Franck Beauvais.
Oui, c'est un film de Franck Beauvais réalisé en 2019. Le speech est assez simple. C'est un homme qui s'est fait larguer ou qui s'est séparé de son compagnon il y a 6 mois, qui est coincé dans une ville retranchée d'Alsace et qui va regarder 400 films. Et de ces 400 films, il va sortir plein d'extraits dans lesquels il va raconter sous la forme d'un journal intime ce qu'il pense, ce qu'il ressent, les événements du quotidien, aussi les événements internationaux, les drames, les attentats. Et du coup, il va ressasser un peu toutes ses expériences. Il va parler du décès de son papa, des choses comme ça. Et en fait, c'est une longue expérience qui est donc sans images tournées, puisque ce ne sont que des extraits de films. Donc 400 films, parmi lesquels Le Monde de Charlie, Le Temps de l'Innocence de Scorsese, Neon Demon, A Perfect World de Clint Eastwood, La Peuplée de Lubitsch, Le Pensionnat des Jeunes Filles Perverses aussi, un film de Noribu Bumi Suzuki, que je vous invite à voir, et plein de films italiens et de différentes régions. On sent que vraiment, si on regarde en fait le générique de fin, on ressent vraiment des périodes où il a regardé plein de films en italien, plein de films du coup danois ou des choses comme ça. Et c'est un film qui du coup est très personnel. Et donc j'aimerais vous lire un commentaire que j'ai trouvé sur Allociné, que je trouve plutôt juste. On peut s'étonner de la classification en documentaire de ce film. On pourrait le définir comme un poème, un manifeste, un élan créatif intime à large portée. Pas de doute, derrière cette voix calme se cache une vraie pépite, inclassable et profondément sensible. Je suis assez d'accord en fait, parce que je pense que c'est pas vraiment un documentaire, c'est plus une expérience, c'est vraiment une expérience. Et je suis assez intéressée par l'idée de poème.
C'est un film très cinématographique, parce que c'est un film qui ne met en scène que des films qui existent déjà, en fait. Et c'est vraiment ce que tu as cité, des films que je connais assez bien, genre Néon Démon, Temps de l'Innocence, des films qui me plaisent. Et pourtant, je n'ai aucun souvenir des images de ces films en particulier. Parce que c'est un film que j'ai vu quand il était sorti, donc il y a 2 ans, je crois déjà,
oui, en 2019.
Et dans tout ce flot d'images, on retient pas tant les images qu'en fait le commentaire. Et c'est vraiment ce qu'on superpose les images qu'on voit à l'écran avec les images qu'on s'imagine. C'est presque comme si on lisait un texte ou qu'on nous racontait un texte. Texte qui est d'ailleurs disponible en livre chez Capricci. Et donc on a l'impression de voir, grâce à toutes ces images qui se superposent et qu'on entend, qu'on lit, qu'on écoute, de voir vraiment Franck Beauvais dans son appartement et de l'imaginer entouré de DVD, les vendre au fur et à mesure, se vider ses DVD, faire des petites balades dans ce village. Je crois que c'est dans l'Est, non ?
C'est en Alsace, oui.
C'est en Alsace, ce village assez reculé. Et donc c'est un documentaire très expérimental, mais dans tout ce que ça peut avoir de positif, quoi. C'est un documentaire qui bouleverse un peu nos habitudes, qui peut un peu nous perturber, et qui est très intéressant et que je recommande.
Oui, et pour revenir sur ce que tu dis, sur le fait qu'en fait on revoit pas ces films, par exemple, j'étais très étonnée de trouver des extraits de Mad Max, et en fait c'est parce que à aucun moment on voit des yeux. En fait, je me suis rendu compte que à aucun moment on voit le visage de quelqu'un, on voit quelque chose qui pourrait démarquer. En fait, on voit des mains, des membres, des gens de dos, des objets. Et en fait, le montage est tellement fort que même s'il y a des scènes qui peuvent durer assez longtemps pour qu'on puisse reconnaître le film, je trouve qu'en fait c'est tellement ancré dans le discours, dans la façon de faire. Et en fait, y a vraiment, c'est fait avec grâce, vraiment, à chaque fois, le jeu.
Il faut noter que c'est un film qui a été soutenu par la bourse Bouillon d'un rêve, versée par la SCAM, justement, aux auteurs qui explorent toutes les formes d'écriture. Et là, pour le coup, la forme d'écriture, elle est très très particulière. C'est un concept très particulier, très original, qui m'a intrigué quand j'ai lu justement le concept de ce documentaire, qui m'a fait très envie, mais qu'au final j'ai trouvé assez long, sur 1h15. D'autant plus que donc sur tous ces extraits de 400 films, on a la voix que je trouve un peu monotone de Franck Beauvais. Et puis il traverse une période qui n'est pas facile pour lui, qui n'est pas facile pour la France, qui n'est pas facile dans le monde. Il parle de toutes ces actualités. Donc c'est empreint d'une forme de pessimisme qui n'aide pas non plus à, je trouve, à ce que ces 1h15 passe vite, soit très agréable. Mais
c'est tout l'objet du docu, justement, je trouve.
Ouais.
Que ce soit pas agréable. Bah, tu vois, moi je trouve que c'est un film très bien, mais qui fait pas du bien.
Mais je propose qu'on écoute juste un petit extrait, justement, pour que les auditeurs se rendent compte.
Je suis transpercé de flèches réflexives dont les pointes attaquent ma raison. Je suis colonisé par des flux d'effroi, propulsé en trompe sur des montagnes russes, téléporté dans le couloir d'Alphaville. À chaque porte, le seuil du vide qui m'appelle et m'aspire. Travelling compensé sur ma conscience assiégée qui exhorte en vain à la clémence et déclare forfait. Les idées se confondent et se brouillent, s'épaississent, s'obscurcissent. Les images sans rapport entre elles s'entrechoquent. Je bats la chamade, mais personne avec qui négocier. C'est la grève des synapses. Un tsunami s'abat sur mes neurones. La respiration s'emballe. L'air vient à manquer. On cherche à m'asphyxier là-haut où le maelstrom se déchaîne. Le pouls pulse, néfaste et furieux. Je veux hurler, mais aucun son ne franchit ma bouche.
Oui, donc évidemment, là où je te rejoins, c'est que c'est très neurasthénique. C'est très perturbant. S'imaginer ça pendant 1h15, ça peut paraître déroutant, et ça l'est. Et c'est très bien fait à ce niveau-là. C'est que c'est pas un film agréable. C'est un sujet en même temps très personnel, parce que c'est sa rupture, mais en même temps très universel, parce qu'on a tous connu des ruptures. Donc, évidemment, je trouve qu'il nous donne quand même la chance de rentrer dans sa rupture par le biais de l'art. Et à ce niveau-là, je parlerai alors du syndrome de Stendhal. Alors, je sais pas du tout si c'est scientifique comme syndrome, mais je trouve le concept intéressant. C'est en fait un syndrome qui expliquerait des vertiges ou des sentiments de malaise par la multiplication d'œuvres d'art auxquelles on pourrait faire face. Donc, par exemple, se retrouver complètement dans un malaise face à plusieurs tableaux qui nous pétrifient. Et je crois que donc Beauvais joue là-dessus. Enfin, j'imagine qu'il y a un rapport comme ça à l'art très très dérangeant, et qu'il a essayé d'associer à sa rupture. Et alors aussi, ce que t'as pas dit, t'as dit qu'il avait regardé 400 films. Oui, mais 400 films, ce qui compte, c'est le délai. En fait, il regarde 4 ou 5 films par jour. Donc, pour l'avoir fait avec Nicolas dans certains festivals, 4 ou 5 films par jour. Au bout de quelques jours, on n'en peut déjà plus. Et lui, il l'a fait pendant du coup des semaines. Hein, je vais pas faire le calcul, mais pendant des semaines. Et je trouve qu'il retranscrit très bien justement ce malaise qui s'instaure. Et après, oui, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est vraiment difficile à regarder, mais nécessaire, je pense.
Après, je rejoins un peu Louis sur cette question en fait de la monotonie, etc. C'est qu'il faut se dire que ce réalisateur, il a réalisé auparavant, avant ce film, que des courts-métrages. Et je trouve que ce film, il a un peu un format de court-métrage. C'est-à-dire que l'idée est bonne, elle est même exceptionnelle, enfin c'est fou. Mais quand on dépasse les 30 minutes, on se dit effectivement le texte est prenant, on est dedans, mais est-ce que je vais réussir à vraiment être intéressé jusqu'au bout? Par exemple, notamment tout le moment où il retourne à Paris voir des amis, etc. Où en fait, au bout d'un moment, en fait, on est pris dans ce flux. On est vraiment pris dans ce flux où on imagine vraiment en fait. Par le biais des images, presque, enfin, c'est presque rigolo, mais c'est vraiment supposé. Enfin, on voit des images, mais en fait, on s'imagine complètement autre chose. Et à la fin, moi, je me disais, j'ai aimé, mais il y a eu de longs moments où je me disais quand même, ce format-là, il est fini, en fait. Enfin, il s'épuise lui-même par le fait que justement, c'est trop, quoi.
Mais je crois que tu te réappropries. À l'aide d'un jeu qu'on fera peut-être après un dernier avis de Lucas.
Non, mais je trouve, enfin, tout à l'heure tu disais que c'était pas un documentaire, et oui, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, en fait, je trouve que c'est quand même un super documentaire indirect sur la dépression. C'est-à-dire que lui, évidemment, il explique pas ce que c'est la dépression, mais nous, on arrive en jugeant, en fait, son film, en jugeant ce qu'il nous livre à ce que peut être, en fait, la dépression. Et je trouve ça hyper fort.
Donc c'est un film qu'on pourra voir, qu'on vous conseille, je pense, sur grand écran. Ça doit être quelque chose comme de le voir sur grand écran, parce qu'on a chacun vu sur nos petits écrans. C'est un film qui sera diffusé le 6 novembre à 13h30, et on le rappelle, c'est par Franck Beauvais. Et je crois que tu t'es réapproprié un peu ce concept de syndrome de Stendhal de film à l'aide d'un petit jeu que tu nous as concocté avec la complicité de Victor.
Alors je vous propose justement d'être en état de sidération face à des citations connues. Donc en fait, le film proposait plein de jeux, mais peu de jeux finalement... sonore. Donc je propose 4 citations de films très connus, des longues citations, des petites citations, etc., qui vont être jouées tout en même temps. Je propose un one shot, que vous réussissiez à trouver les 4 extraits.
Il était joli, la campagne.
The Matrix is everything. It is all. Even now, in this way,
on attend pas Matrix.
Si tu veux le résultat elle-même,
Matrix,
feel
it.
Pourquoi tu l'as à l'intérieur?
Alors moi j'en ai 3.
J'en ai 2 de sûr.
J'en ai 2 et demi.
Ok.
Ouais, 2 et demi. Je les ai tous, mais c'est parce que c'est moi qui fais le jeu.
Je propose que Louis commence, comme ça on pense que...
Bon, alors j'ai Matrix, en référence à notre dernière émission, que vous pouvez retrouver en podcast. J'ai Camping, on attend pas Patrick.
Classique.
Classique. Et pour le reste, non, je vais pas m'avancer parce que j'ai une demi-idée, mais je voudrais pas.
Je pense que Lucas, là, du coup, c'était.
Non, je suis pas sûr. Bon, j'avais Matrix et Camping. Alors, il m'en semblait entendre Belmondo parler de campagne. Alors,
oui.
À bout de souffle.
À bout de souffle, ouais, c'est avec la thème demi-idée.
Tout à fait.
Et le dernier est un peu plus dur.
Le dernier, je l'ai pas eu.
Le dernier, je l'ai pas eu non plus.
Un indice. La réplique la plus connue de ce film, c'est Atmosphère. Est-ce que j'ai une
tête des brumes?
Pas du tout. D'accord. Mais presque.
C'est, je confonds toujours ces deux films.
C'est l'autre.
C'est Hôtel du Nord.
C'est Hôtel du Nord avec Arletty.
Bah, merci pour cette tentative de jeu. Peut-être qu'on la refera lors de prochains, prochains jeux. On espère que vous avez joué avec nous, comme pour les autres jeux chez vous. Et je vous propose tout de suite de passer à une autre ambiance, un peu moins festive, mais très culinaire. Et pour présenter Ali, qui est donc le film dont je vais vous parler, qui est réalisé par Marino Togali et A.L. Terry, rien de mieux qu'un petit extrait. On ne comprend pas le mandarin, mais vous allez voir, vous allez capter de suite l'ambiance du film.
放点火腿肠，放点东西都行，好吧？不要放火腿肠。不要放火腿肠吗？好。还有呢？还有啥呢？有没有什么东西啊？量都变了。
Donc depuis le début de l'émission, on parle souvent de la forme des films et des documentaires. Mais c'est vrai que le son, c'est une composante majeure du documentaire. On pense évidemment à Frédéric Weisman, qu'on aime beaucoup ici, qui lui n'était pas au cadre, mais au son, pour enregistrer ses nombreux documentaires et qu'il réalise toujours, à l'âge de 80 ans. Et donc là, le son, au son, vous entendez, donc ça parle mandarin, et surtout vous entendez en fond tout le long des bruits de cuisine, de cuisson, d'huile sur le feu, de nouilles qu'on retourne dans des petits wok. Car Ali, en fait, ça parle de ça. Ali, ce n'est pas un prénom, mais c'est une expression qui en mandarin veut dire tante. C'est une manière affectueuse de dire tante sans forcément avoir de lien de sang. Et c'est aussi quelqu'un qui vient d'une zone assez rurale, qui fait des petits boulots de service dans des grandes villes. Et ici, c'est ce que fait donc Ali, on ne connaîtra jamais son prénom, mais qui est l'héroïne du film, qui, depuis 20 ans, habite à Shanghai, mais pas dans le Shanghai en plein essor de centre-ville avec des buildings qu'on peut s'imaginer, mais dans un Shanghai de banlieue, de petites ruelles assez anonymes. Il y a deux ruelles, ça pourrait être n'importe où dans le monde, en fait, ces ruelles, où il y a des gens qui passent en rentrant du travail, où il y a des jeunes étudiants qui passent, ou qui se lèvent peut-être. Et Ali, on va la voir avec une collègue à elle, tout le long du film, cuisiner, faire en fait mener sa petite vie, sa petite entreprise, qui connaît la crise malheureusement. Et on va la voir donc cuisiner, échapper aux policiers, les policiers vont revenir, elle va re-échapper aux policiers. Et surtout en creux, au-delà d'un portrait de femme, donc évidemment elle est toujours au centre de l'image, parfois on ne voit pas, même pas l'arrière-plan, le focus est fait sur elle, mais au-delà du portrait de cette femme, c'est évidemment le portrait de la Chine contemporaine qui est fait en creux, car ça parle des expulsions forcées de logement pour créer des centres commerciaux, ça parle de la corruption de la police, où tout le long elle le dit ouvertement, mais face à la caméra elle ne s'en cache pas, elle est payée pour être tranquille et qui regarde un peu plus loin, ça parle de la gentrification. Donc en une heure, ça arrive à concentrer cette routine qui est, il se passe souvent les mêmes choses dans le film, donc elle cuisine, elle échappe au policier, elle nous raconte sa vie, mais à travers cette routine, on nous apprend la routine d'un pays tout entier. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, camarade?
Ben, moi, je suis comme toi, globalement. Enfin, j'ai l'impression que t'as l'air d'avoir apprécié, passé un bon moment. Et comme toi, moi, je parlerais d'ambiance. En fait, c'est ce qui m'a tout de suite pris, vraiment. C'est très sensoriel comme film. Comme tu l'as dit, on entend tous ces bruits de la rue. On arrive presque à en sentir les odeurs avec tous ces crépitements. On arrive à... les lumières également. Les lumières des étals, les lumières des rues. Qui s'allument, qui s'éteignent. Moi, j'ai trouvé ça très beau. En plus, il y a un sens du cadrage qui m'a plu. C'est net. Il y a une succession de plans fixes toujours très bien cadrés. Et puis, comme tu l'as dit, on revient sur le parcours et la vie de cette femme qui est, bah, moi, je trouve touchante. Et il y a deux questions, moi, que je me suis posées, que j'aurais aimé poser aux deux réalisatrices. Déjà, bah, est-ce que le fait que ce soit deux réalisatrices, ça les a aidées justement à suivre cette femme et sa collègue, comme tu l'as dit? Et surtout, ce film, il est sorti en 2019, donc il a été tourné avant la pandémie, avant le confinement, et je me demande quelles conséquences, si les réalisatrices avaient toujours un lien avec cette femme, quelles conséquences est-ce que le confinement et le fait qu'il n'y ait plus personne dans les rues, donc pour venir la soutenir, lui acheter à manger, etc., Quelles conséquences, elle, ça a eu sur cette vie? On sait qu'elle est retournée, après on apprend à la fin, je crois qu'elle est retournée dans certaines autres grandes villes, qu'elle est même retournée à la campagne, je crois. Donc peut-être que ça a été dur pour elle, je sais pas si c'est le confinement qui a accéléré ces choses-là, mais c'est des questions qui restent en suspens à la fin du film, quand on connaît ce qui s'est passé ensuite. Donc je trouve qu'il y a eu... Moi, j'ai plutôt apprécié.
Et oui, non, je suis assez d'accord avec toi, Louis, quand tu dis que... Enfin, surtout par rapport au rapport avec la réalisatrice, quand tu dis, enfin, sur tes questions pour te répondre un peu, moi, ma vraie question, c'est quel est le rapport de cette femme avec la réalisatrice? À chaque fois qu'elle regarde la caméra, parce qu'elle fait des plans, enfin, elle fait des regards caméra, il y a quelque chose d'une certaine hauteur et même d'une certaine, enfin, d'une vraie inconnaissance. Enfin, on n'a pas du tout l'impression qu'elles sont proches. Et en fait, tu te dis quand même, il y a dans le travail de documentaire, il y a un travail de fixage, il y a un travail vraiment d'entente avec les gens.
Et elle a accepté d'être suivie.
Elle a accepté d'être suivie, et c'est peut-être le défaut de ce film, c'est qu'en fait, il y a peu d'empathie. On présente les scènes, on présente les choses, et en fait, on a l'impression que on est toujours en challenge entre les deux protagonistes, enfin les trois protagonistes du coup, mais que finalement, Aï, elle a vraiment ce rôle de tante, c'est-à-dire ce rôle où on n'est pas si proche d'elle, mais on est quand même un peu proche parce que on la suit toute la journée, on la regarde s'habiller, enfin la première scène, la scène d'origine, enfin de lancement. Elle se coiffe et on rentre dedans parce qu'on se dit waouh, elle est très imposante. Et même la scène où elle parle avec une cousine ou des choses comme ça sur l'importance d'avoir de l'argent et de l'argent de côté, etc. On se dit que c'est quelqu'un de très froid. Et c'est pour ça qu'à la fin, le film reste un peu froid pour moi.
En fait, on comprend que c'est aussi quelqu'un qui est devenu froid avec toute l'histoire, tout le passif qu'elle a. Elle nous raconte l'histoire de sa famille de manière très dure, etc. Et donc, c'est une froideur qui est vraiment effective, mais qu'on comprend assez bien. Et on sent qu'en fait, au bout d'un moment, oui, elle a pas le choix, elle en a marre de cette vie, de toujours faire pareil, etc. Et je trouve qu'il y a des belles scènes avec ce monsieur qui apparemment vit dans la rue, et à chaque fois, elle lui donne un plat, et lui, veut la payer, à chaque fois, il s'embrouille, etc. Ça arrive plusieurs fois dans le film. Et je trouve qu'on voit que c'est quelqu'un de très humain, au final, on a du mal peut-être à avoir de l'empathie, parce que, son quotidien est compliqué, mais au final, c'est un personnage qu'on retiendra, je pense, parmi tous les portraits qu'on a vus dans ce festival. Donc la catégorie de ce film, c'est Femme au cœur du combat, tout simplement, et c'est presque une évidence, et ça sera diffusé le 6 novembre à midi. On change de ville, même de continent, puisqu'on va parler avec toi, Louis, d'un film de Philippe Pujol qui s'appelle Péril sur la ville. Je propose qu'on écoute peut-être un petit extrait pour nous plonger le dedans encore une fois.
Daniel, le rappeur de Marseille, il fait de l'oseille. Daniel, le rappeur de Marseille, il fait de l'oseille. Il fait de l'oseille, il fait de l'oseille.
Je suis DNL, ça, DNL c'est ton nom, et je viens de Marseille. Ouais, c'est Daniel, ouais, c'est bien, DNL. C'est bien, ça fait un raccourci. T'as raison, de Marseille, il faut le préciser, parce qu'il y en a beaucoup de rappeurs. Hein. Ok, si tu viens de mon quartier, ne manque pas de respect, car tu peux te faire tuer sans pitié. Quand même, ça c'est un peu dur. Hein.
Non mais c'est vrai.
Ouais. Dans la rue Barbini, ça fait bim bam boum. Elle est comme elle est, moitié piment, moitié loukoum. Dans la rue du jet d'eau, ça fait bim bam boum. Oui, la rue du jet d'eau, des fois c'est badaboum. Si tu viens chez nous, tu seras étonné. Tu t'apercevras que c'est pas ce que tu croyais. Il faudra oublier ce qu'on t'a raconté. Il faudra abandonner tes mauvais préjugés. On sait faire la fête et on sait partager. On se prend pas la tête et on est tous mélangés. Tu m'en reparles, tu me sonnes, tu me fais écouter, d'accord? Tu me fais lire.
Un bel extrait de Daniel, le rappeur de Marseille, qui fait de l'oseille, et d'un autre habitant de ce quartier de Marseille qui s'appelle la Butte Bellevue, le quartier le plus pauvre de France. Et on est à l'été 2019, au moment où est tourné ce documentaire. Pour le pitcher, là encore une fois, on est face à la menace en fait d'un projet urbanistique qui pourrait transformer durablement ce quartier. Et face à cette menace, du coup, les habitants s'inquiètent, tentent de se mobiliser malgré leurs différences sociales, culturelles, malgré les difficultés qu'ils y rencontrent aussi. Et on passe avec eux cet été aussi. Et ce que je trouve important de dire, c'est que ce documentaire a été réalisé par Philippe Pujol, qui est un journaliste marseillais, qui a lui-même grandi à la Butte Bellevue, donc dans ce quartier. Et c'est ce qui donne, je trouve, une certaine justesse dans son regard. Il a le regard très juste sur ce quartier. Et en fait, on voit que malgré le niveau de vie modeste de ses habitants, on sent un profond attachement de leur part pour leur quartier. Ils veulent pas le quitter et ils ne peuvent pas le quitter, de toute façon. On voit comment ils passent l'été là-bas, eux qui ne partent pas, qui ne quittent pas ce quartier pendant les vacances. Ce qui est très prégnant, moi je trouve, c'est l'absence de projet pour ces gens-là, pour ces habitants-là. On a l'exemple au début d'un grand costaud qui dit bah moi je sais pas ce que je veux faire quand on lui pose la question. Alors ils se débrouillent par eux-mêmes pour le meilleur, pour le pire. Et en regardant ce documentaire, moi je savais pas si je devais me réjouir ou trouver triste ce que je voyais, me réjouir de voir que bah malgré tout il y avait une certaine vie de quartier, une certaine je sais pas, débrouillardise, une façon quand même de s'amuser, de traîner entre eux, de parler entre eux, ou bah ressentir de la tristesse face à la pauvreté de ces gens-là qui n'ont aucune autre perspective que leur quartier. Et en fait je pense que c'est les deux qu'il faut ressentir, les deux que j'ai ressentis. Je sais pas, vous, quel sentiment a prédominé ?
C'est que Philippe Pujol, je le connaissais pas en tant que réalisateur, mais en tant qu'écrivain et journaliste. Il avait écrit La Fabrique du Monstre, il y a quelques années, qui mettait en lumière tout le clientélisme de Marseille et les raisons en fait, des problèmes de pauvreté, vraiment de pauvreté, des fois même de misère. Car là, c'est vraiment, tu disais, le quartier le plus pauvre d'Europe.
De France, mais peut-être sûrement d'Europe.
Je crois que c'est aussi d'Europe, d'accord, dans le troisième. Et vraiment, déjà, c'est un film qui fait des échos avec d'autres films que j'ai vus cette année. Je pense notamment à Gagarine et cette cité qui va être détruite pour être reconstruite. Donc tous les habitants qui sont délogés, mais qui sont quand même attachés à leur quartier, bien que ça soit un quartier pauvre. Donc oui, il y a toujours cette ambivalence. Et c'est très intéressant parce que ça nous questionne aussi, nous, quand on regarde ce documentaire. Ça ne questionne pas que les habitants. Et dès le début, je trouve que ce qui est très fort niveau mise en scène, c'est que bon, le drone, c'est quelque chose qui est utilisé tout le temps maintenant. On en voit tout le temps, on peut acheter pour 60€ des images de drone sur Internet. Donc le drone, c'est un outil maintenant qui est plus forcément très original. Mais là, de suite, je trouve que le drone, en un ou deux plans, il définit le territoire qui est vraiment un village. Parce qu'on a l'habitude à dire à Marseille qu'il y a 111, je crois, ou 110 villages différents dans Marseille qui sont agglomérés les uns aux autres. Et là, on voit vraiment que c'est vraiment un village à part dont on ne sort jamais. On voit juste des perspectives. C'est un village qui est enclavé par des passerelles qui sont en train d'être détruites. D'ailleurs, je crois qu'en ce moment, elles ont récemment été détruites. Et donc, sûrement, tous ces habitants ont été délogés.
Et puis, tout le monde se connaît. Ça renforce aussi cette idée de village.
Et surtout, tout le monde, la plupart des gens sont définis par leur fonction. Je sais plus si tu t'en rappelles, mais on voit l'expert, par exemple, le maire, le prêtre, la conseillère municipale, les boueurs, et ça fait, c'est des archétypes du coup, mais qui sont utilisés pour qu'on comprenne tout de suite leur place dans le village, et de suite on peut laisser de côté pour comprendre qui ils sont, pour comprendre ce qu'ils ressentent. Donc vraiment, je trouve que c'est très réussi comme documentaire.
Ouais, et puis on pouvait s'attendre à un énième docu-reportage sur un quartier chaud de Marseille, sauf que, bon là le quartier est évidemment hyper pauvre, mais il me paraît pas non plus très dangereux, la preuve implicite c'est que les caméras sont acceptées d'ailleurs.
Sur ça, dans une interview que j'ai regardée de Philippe Pujol, il a dit qu'il lui avait fallu seulement 10 minutes pour convaincre ceux qui dealent de pouvoir les filmer, parce qu'au final on sait qu'ils dealent, mais on le voit
présent,
pas,
oui.
On sent que c'est présent. Et il dit en fait, lui aussi il a l'avantage d'avoir grandi là-bas, mais il a dit j'ai pas eu de difficulté à me faire accepter et à filmer même ceux qui dealent dans ce quartier. Donc ouais,
c'est ça qui est agréable aussi dans le docu, c'est qu'on ressasse pas ces images qu'on connaît, connaît cette réalité. Là on va sur autre chose, et je suis d'accord avec la métaphore du village, et c'est vraiment, il arrive à donner vie et corps à ce quartier qui pourtant par définition n'est pas un corps, très réglementé ou très joli à voir, mais il y a évidemment beaucoup de beauté là-dedans grâce au personnage. Et personnage très attachant, bien sûr. Et on l'a dans l'extrait, on a entendu un des petits qui veut devenir rappeur et qui contraste beaucoup avec son frère, je crois.
Oui.
Son frère qui, lui, se dit déjà gangréné par la dureté de la rue. Vraiment très dur. On sent qu'il en rajoute un peu, mais ça vient pas de nulle part. Et ces deux frères, j'ai trouvé géniaux. C'est vraiment quasiment des personnages de fiction. Et voilà, on apprécie voir tous ces personnages essayer de tuer l'ennui. Tu disais, ils partent pas en vacances, bien sûr, mais on a l'impression qu'ils s'ennuient, mais en même temps, ils arrivent à tuer ça par diverses activités. Et enfin, tu parlais tout à l'heure de Wise Man. Alors, toute proportion gardée, mais il y a un peu de Wise Man dans ce docu, notamment dans la confrontation entre les habitants et le maire, où là, tu vois la vie politique qui se joue. Je sais plus quel est l'objet du débat, mais il y avait une conversation entre, je sais plus d'ailleurs si c'est le maire, enfin, c'est une représentante.
Conseillère municipale.
Voilà, conseillère municipale qui parle comme ça avec les habitants, et ça, c'est typiquement Wisemanien dans la manière de montrer sans juger comment se déroule la vie politique dans un quartier très pauvre.
Et pour revenir même sur l'extrait qu'on a choisi, ça rend bien compte du côté multigénérationnel. Donc entre Daniel, ce jeune rappeur, futur rappeur peut-être.
Qui a quoi, 7 ans,
8 ouais.
ans.
Et cet homme, beaucoup plus âgé que lui, côté multigénérationnel et multiculturel, il chante pas du tout le même type de chansons, et pourtant ils se comprennent très bien, ils s'entendent très bien, et je trouve que ces deux aspects, multigénérationnel et multiculturel, qu'on retrouve beaucoup dans ce documentaire, qu'on a tous du coup globalement apprécié autour de cette table.
Pour rester dans l'esprit de ce documentaire, car c'est diffusé dans la catégorie L'Esprit des Lieux le 7 novembre à 18h15, je propose qu'on écoute une petite musique. Et qu'est-ce que tu nous as choisi, Louis ?
Mais je vous ai choisi un extrait d'une musique d'Akhenaton et de la Funky Family qui est sortie en 1995 pour nous montrer qu'en 25 ans, finalement, pas grand-chose n'a changé quand on écoute les paroles. Et je crois que Daniel, le rappeur de Marseille, n'a rien à leur envier. On écoute.
Je nagerai avec les femmes et un micro dans une piscine. Si j'avais l'occasion de partir loin des vermines, l'hésitation ne se ferait pas, c'est certain. Mes poches sont vides et j'ai fait de pognon et d'un bon destin. J'extirpe ces quelques mots, un silo de mon parto. Sorti un jour du caniveau, je roule dans les casinos. Ouais, je fais le zeg en expatrie, mais je sors quand même, quoi qu'il arrive. Car Funky est la famille. Autant parler des mains que de la bouche. Chez nous n'est pas louche, méditerranéen de souche, mes stylos font mouche. Au milieu d'embrouille ou de mauvais coups, je crame tous les tintanos qui nous cherchent des poux. Dans la nuit, EMC check, check le Mikey, taquiner la rime et le beat est mon véritable hobby. Envoyer des styles pour tous les frères qui niquent la hella. Pour la première fois, le refrain commence comme ça.
Tranquille au bar et poupe dans le pétard.
Tu reconnais bien là le style de Balboy de Marseille.
Je suis sombre et gage dans des coups.
Et vous écoutez toujours la séance du dimanche. On a écouté un morceau qui a 25 ans cette année, qui s'appelle Bad Boy de Marseille, par Akhenaton et la Funky Family. On change encore une fois de continent, on revient sur le continent asiatique.
Et d'ambiance.
Et d'ambiance, oui, tout à fait. Et toi, Adeline, de quoi vas-tu nous parler ?
Je vais vous parler du film Léa Tsemel Avocate. C'est un film réalisé par Rachel Lee Jones et Philippe Pelaïch, qui a été réalisé en 2019 et pour une durée de 110 minutes. Donc le speech est assez simple, c'est Léa Tsemel qui défend les Palestiniens, des féministes aux fondamentalistes, des manifestants non violents aux militants armés. Dans sa quête inlassable de justice, cette avocate juive israélienne, qui représente des prisonniers politiques depuis 5 décennies, pousse la défense des droits humains jusqu'à ses limites. Donc c'est un documentaire qui suit une avocate de 72 ans à Jérusalem. Donc le fil rouge, c'est 2 procès. Celui d'un jeune garçon accusé d'une tentative de meurtre avec son cousin et d'une jeune femme ayant échoué à un attentat suicide. En parallèle, Léa Tsemel nous raconte son histoire et ses engagements aux côtés des personnes de sa famille, donc notamment son mari et ses enfants.
Ouais, bah, c'est évidemment un docu qui joue sur le paradoxe entre bah, évidemment le fait que Léa Tsemel soit israélienne et qu'elle défende des clients palestiniens, sauf que c'est pas vraiment un paradoxe puisque c'est le cœur du métier d'avocat que de défendre quiconque, peu importe son ethnie, sa nationalité ou que sais-je encore. Mais là, c'est vrai qu'il y a quand même un hiatus entre sa nationalité et ses clients. Et c'est ce qui fait évidemment toute la sève du documentaire, c'est de voir comment elle pense. Penser ENSE, ce choc, mais aussi elle pense PNSE, c'est différent, c'est cette histoire très difficile. Et histoire très difficile, et donc ça implique des scènes très choquantes. Bon, c'est flouté la plupart du temps, mais le son étant parfois plus fort que l'image, faut être voilà, averti qu'il y a quand même, c'est assez rare, mais il y a quand même des images assez troublantes et assez choquantes, mais qui sont nécessaires pour comprendre la nature de l'activité de Léa Tsemel. Et moi, il y a un autre point qui, évidemment, m'a beaucoup plu, c'est le montage, qui est excellent, parce que, donc tu l'as dit, elle raconte aussi, en dehors de ces deux fils rouges que sont les affaires qu'on suit, elle raconte son passé. Et en fait, chaque retour dans le passé fait écho à une phrase ou à une image ou à une anecdote qu'on a dans le présent. C'est pas juste un retour dans le passé comme ça gratuit pour expliquer sa vie, et ça montre vraiment que l'histoire en fait se répète. Enfin, je pense que c'est ça la velléité des réalisateurs, c'est de montrer que l'histoire se répète et qu'elle se répétera encore, malheureusement. Et c'est vraiment un docu qui sous-entend ça de manière assez subtile, et donc c'est réussi de ce côté-là.
C'est aussi un portrait familial, parce qu'on voit évidemment Léa Tsemel qui est au cœur du documentaire, mais aussi son mari qui était un militant, on voit ses filles qui témoignent. Et c'est un portrait tellement personnel que j'ai noté deux phrases d'elle-même, comment elle se définissait. Elle disait tout d'abord, lors d'une interview télévisée, je ne suis pas avocat des Palestiniens, je suis avocat des droits de l'homme. Et ensuite, elle disait aussi, je suis une femme optimiste et très en colère. Et je trouve que ça définit bien le personnage, et on oublie de le faire, mais je pense qu'on peut s'écouter un petit extrait pour l'entendre parler de son métier en anglais.
We always lose. For us, a victory is if we get a deduction of a year out of five. We did our day, you know. If we manage to visit a client while he's still on interrogation. If we just manage to see him and say, hi, I'm a lawyer. Many of my friends laugh at me by now. I start a new case with all the possible optimism. And I'm sure now, in this case, I'm going to win it. I'm going to make it. This person will not be deported. And again and again and again, time after time.
You never win. You never win those cases.
No. Until now, I'm sorry to say, never.
Donc pour les plus fluentes d'entre nous, on peut comprendre que dans cette interview, elle dit qu'elle ne gagne jamais de procès. Et elle reviendra après sur cette expression en disant qu'elle ne gagne jamais de procès, mais que c'est pas le but. Le but de ces procès, c'est non pas de les gagner, mais de réussir à alléger la peine et de prouver notamment le fait que la justice a toujours raison et qu'en fait, et notamment, en fait, c'est vraiment le point fort de ce procès, c'est que dans les deux procès que nous allons suivre, elle va les perdre. Et en fait, l'enjeu, c'est plutôt le côté, elle va rechercher à prouver quelque chose, prouver que c'est un procès politique, que toutes les raisons, en fait, elles sont pas bonnes. Et en fait, pendant tout le documentaire, on va la voir suivre ses propres opinions. Et parfois, moi, je trouve à défaut, parce qu'en fait, ça donne l'image d'une personne très caractérielle et aussi qui se trompe et qui du coup est faillible. Alors que, encore une fois, c'est un portrait qui, sur l'idée, est exceptionnel. C'est une femme, elle est combative, elle est combattante depuis plusieurs décennies, et en fait, elle n'a jamais lâché. Elle parle du procès de son mari, qui, je trouve, est le moment le plus touchant. Parce qu'en fait, elle explique qu'elle lui est rentrée dedans, elle l'insulte, elle le bouge, pour justement, en fait, qu'il ne se laisse pas avoir, et qu'il se prenne en force, etc. Et c'est un documentaire qui est très touchant. Après, moi, je trouve qu'il a de nombreux défauts. Qui sont celui que tu trouves en qualité toi, Lucas, donc c'est assez rigolo. J'ai pas du tout aimé le montage, et en fait j'ai pas du tout aimé le rapport entre les archives et le présent. J'ai trouvé qu'il y avait deux fils rouges finalement, et que le portrait de l'avocate des fois n'avait rien à voir avec les procès, et que notamment à la fin, et il y a du coup une sorte d'écrit qui raconte un peu de ce qui s'est passé après, notamment en fait que l'avocat qui est avec elle, donc son compère, son camarade, a été enlevé, enfin non, a été emprisonné, pardon, pour conviction politique, etc. Et à aucun moment on comprend que cette personne est engagée, qu'elle a des engagements politiques, etc. Bon, après, il pouvait pas voir le futur, etc. Mais je trouve que les personnages du documentaire, quand ils ne sont pas en interview, ne sont pas développés. Les procès ont... On n'interroge pas la relation qu'elle a avec le père du fils, qui pourtant est un homme très cinématographique. À chaque fois qu'il est filmé, on sent qu'il a peur, etc. C'est bien filmé, mais pour autant, on dit trop de choses et pas assez, finalement, j'ai trouvé.
Dernier petit point sur ce film, ce que je trouve... Tu parlais des archives, mais ce que je trouve très intéressant dans ces archives, c'est déjà, parfois, on en voit deux en même temps, donc ça permet de suite donner un champ, un contre-champ, enfin, un truc très cinématographique à l'image. Et ce qui est intéressant, c'est que ça tisse des liens aussi avec les autres documentaires qu'on a pu voir. Parce que c'est la première israélienne, donc en tant que femme, à être allée au mur des lamentations qu'on voyait dans Histoire dans le hangar. Donc c'est aussi intéressant de voir ce portrait parmi les autres portraits. Donc c'est aussi en ça que je trouve que c'est bénéfique de voir des films dans un festival, de voir plusieurs films par jour, sans que ça devienne non plus maladif, comme Lucas le rappelait tout à l'heure avec notre expérience cet été. Et donc vraiment ça permet de tisser des liens entre ces personnages qui sont très différents, et qui pourtant ont des ponts entre eux, parce qu'ils sont tous humains, quoi, en gros, et tous très attachants à leur manière, sans... On a peut-être un peu moins d'empathie envers, par exemple, Adi, dont on parlait tout à l'heure, qu'envers Léa Tsemel ou envers Abdel, le chanteur de Brel. mais au final on arrive à se souvenir de tous ces personnages. Je trouve que c'est un des points forts du film, c'est que certes ça dure 1h50, c'est peut-être un peu long, mais au moins on se souvient de cette Léa Tzemel, et je pense que dans quelques années, même si on aura peut-être oublié le documentaire, on aura ce souvenir lointain de cette avocate qui se bat, qui perd peut-être, mais qui se bat quand même. Ça s'appelle donc Léa Tzemel Avocate, c'est diffusé dans la catégorie Notre Histoire, le 6 novembre à 19h45, et on vous le recommande pour faire votre avis. On parlait de procédés cinématographiques et de montage, etc. Là, on va aller vraiment dans le cœur du sujet avec toi, Lucas.
Les militaires n'ont le droit de tirer que s'ils sont sûrs des intentions hostiles de leurs ennemis. C'est en tout cas ce que disent leurs règles d'engagement. Quand les soldats parlent de la guerre, ces questions reviennent toujours. Le doute, l'autorisation de tirer.
Roger, you got him.
Roger, we got him.
You got him in the chest?
Yeah, I got him.
Laze?
Lazing?
Fire.
Firing.
Good shot.
Got him.
One more.
Let me get this guy coming up. Where'd he go?
Big guns 5-3, can I get a grid to that location number?
Let me know if you got any.
Yeah, one more if I shoot.
I got a guy in a bush that got away. We can get him.
Shooting.
You got cleared in.
He's pulling a weapon right now.
Is he?
It looks like it.
Sure.
I'm shooting.
Get up.
We're gonna shot at. We're gonna shoot him back.
Alors, ce qu'on ne comprend pas forcément en entendant l'extrait, c'est qu'évidemment, ce sont des images militaires, des archives militaires, mais des archives militaires aériennes. On voit donc cette action qu'on vient d'entendre par le biais en hauteur, en fait, dans un hélicoptère. Et c'est justement tout le principe de ce documentaire d'Eleonore Weber qui s'appelle « Il n'y aura plus de nuit ». C'est que c'est un documentaire qui est composé à 99% d'images, de caméras, d'hélicoptères de guerre qui filment des opérations militaires dans plusieurs pays et sur différentes temporalités, avec une voix, vous l'avez entendu au début de l'extrait, qui est celle de Nathalie Richard, que j'ai d'ailleurs trouvée absolument parfaite. Donc évidemment, ces images en noir et blanc de captation aérienne militaire, on a déjà tous vu des images de ce type, que ce soit dans un JT ou sur YouTube où c'est accessible. Mais là, ce qui fait évidemment quelque chose d'unique avec Il n'y aura plus de nuit, c'est leur assemblage, leur montage. Et surtout, et c'est ce que j'ai apprécié, c'est que la réalisatrice n'en fait pas un sujet très précis, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais dans quel pays se déroule la guerre, on ne sait jamais quand c'est, parfois évidemment on s'en doute, mais c'est jamais donné. Et en fait ça donne un côté ça donne un côté philosophique au documentaire sur lequel je reviendrai. Mais d'ailleurs, Eleonore Weber, donc, elle dit ceci en interview, donc je cite, « J'ai d'emblée choisi de mettre hors champ la question géopolitique. La technologie du regard que nos démocraties ont inventé pour faire la guerre m'interrogeait suffisamment pour devenir un sujet en soi. » Donc évidemment, c'est ça le vrai sujet. C'est, en gros, comment les nouveaux moyens de faire la guerre ont changé notre rapport au regard, au corps, à la tuerie, au massacre. En gros, c'est la guerre déshumanisée. Et d'ailleurs, ce côté déshumanisé, ça passe aussi par le texte que cite Nathalie Richard. Puisqu'à un moment, elle dit, alors qu'on assiste, donc toujours en vue aérienne, on assiste à une sorte de course-poursuite, ce qui semble être quelqu'un qui fuit des policiers en voiture. Donc le commentaire dit, grâce à la caméra thermique, tout ce qui produit de la chaleur brille à l'écran, les êtres vivants comme les phares de voiture. Donc on met les êtres vivants sur le même plan que les phares de voiture, donc l'humain sur le même plan qu'un objet. Et c'est en fait, c'est tout le sentiment terrible qui, moi en tout cas, m'a traversé en voyant le film. C'est qu'on a beau voir pendant 1h30 des gens se faire tuer à coups de bombes ou de mitrailleuses, ben en fait on ne ressent pas grand chose, puisque ce sont juste des taches blanches sur un fond noir, ce sont juste des pixels, et c'est toute la gêne que procure le film. Et je pense que ça va dans le sens de ce que veut nous dire Eleonore Weber.
Ouais, bah il n'y aura plus de nuit, c'est l'autre grande proposition formelle de notre sélection. Après, ne croyez surtout pas que je hurle. Moi, je trouvais qu'il y avait des images vraiment fascinantes au début, comme tu l'as dit, celle à la caméra thermique, elle dit, voilà, ça brille. Enfin, moi, j'ai trouvé ces images vraiment fascinantes.
Oui, c'est des images en noir et blanc, caméra thermique, mais rien que visuellement, en fait, ça marche. C'est horrible à dire, mais ça marche très bien.
Exactement.
C'est très joli.
Y en a d'autres qui sont beaucoup plus glaçantes, comme celle des tirs mortels. Et puis au final, les scènes se suivent et on se dit que c'est absolument terrifiant. Et pour faire court, je te rejoins, bah en fait, tout à fait sur l'apport bénéfique, je trouve, de décontextualiser de tout conflit précis les images que l'on voit. Et c'est ça qui donne toute la profondeur et toute la philosophie.
On peut faire un sujet universel.
Voilà, exactement.
C'est tout à l'heure, Adeline, en parlant de Ne croyez surtout pas que je hurle, tu disais qu'on voyait aucun visage. Bah là, c'est encore le cas, parce que c'est des images qui sont prises de très très loin. On peut zoomer presque à l'infini, mais on ne verra jamais les. On voit que les contours des gens, donc ils sont même pas leur image, ils sont déshumanisés. Et oui, c'est vraiment le film parfait pour montrer à quel point. Enfin, le documentaire parfait pour montrer la déshumanisation de la guerre moderne. Des frappes dites chirurgicales, comme c'était très précis, qu'une bombe ne tuait qu'une seule personne en précision.
On voit qu'il y a des erreurs d'ailleurs dans certaines séquences du film.
C'est ça qui est terrible.
Des
parce
journalistes
que...
ou même ils se trompent de cible. Enfin...
Il y a un moment où elle dit on ne peut pas différencier un berger avec ses moutons d'un djihadiste avec une kalachnikov de loin.
Et comme tu disais, Lucas, ces images qu'on a tous vues, des JT, on s'appelle évidemment de l'affaire Snowden qui avait diffusé des images de frappes de drones et de soldats qui rigolaient presque en tuant des gens. Sauf qu'on les a vues, ces images, mais on les a jamais vraiment regardées. Et là, ça nous force, ce film de, qui est assez court, qui dure une heure et quart, ça nous force vraiment à regarder ces images et à comprendre ce qu'il y a derrière, que chaque point qui disparaît, ben, en fait, c'est une vie qui meurt. Et surtout, c'est un procédé, encore une fois, très cinématographique. Parce que, en fait, c'est que des plans d'hélicoptère. Les plans d'hélicoptère, c'est toujours beau au cinéma. C'est le train avant l'heure. C'est des plans très souples, très amples, qui peuvent zoomer, qui peuvent se déplacer en toute fluidité. Et donc là, rien que les images brutes, déjà, sont noir et blanc, donc il y a un travail esthétique dessus. Il y a des gros plans, il y a des plans séquences. Il y a vraiment des dissociations d'images et de sons. Je me rappelle aussi de ce plan où le pilote d'hélicoptère tourne autour d'un cratère qu'il a lui-même creusé et qui est terrible. Et surtout que le fait que les gens qui visent avec ces caméras dans les hélicoptères, c'est des caméras qui sont rivées à leur regard. Donc vraiment, ça devient un homme-machine, un homme-caméra. Et on se dit, peut écrire Antoine Debecq pour écrire tellement de livres là-dessus.
La caméra est posée sur leur casque.
C'est ça.
Qu'il faut dire.
Et puis je parlais tout à l'heure du rôle du silence et des blancs dans Histoire d'un regard. Mais là, je crois que j'ai rarement vu des silences aussi bien utilisés. Parce que le commentaire nous met en condition. Parfois, on entend aussi ce que disent les pilotes. Puis il y a un gros blanc. Et puis parfois, on se dit, en fait, c'est horrible, mais on se demande, mais est-ce que moi, je les tuerais là? Et puis après, les images décident pour nous et on n'a plus le choix. Et ça m'amène à mon dernier point que je trouve intéressant, c'est la place quasiment divine qu'a le spectateur face à ces images. On se prend très vite pour Dieu, en fait, puisque la mort arrive du ciel et surtout, on peut rien y faire. Enfin, je veux dire, les hélicoptères tuent sans pouvoir être tués, ils sont inatteignables et ils voient tout. Et c'est une mort inévitable à laquelle, d'ailleurs, les personnes qui meurent sur les vidéos ne peuvent absolument pas échapper. Elles ont beau courir, elles ne peuvent pas y échapper. Et ça rajoute un côté céleste et terrifiant au documentaire, que je rapprocherai d'ailleurs pour finir, parce qu'on parlera de Werner Herzog dans notre prochaine émission, à son documentaire Leçon de ténèbres, qui, sur un différent sujet, utilise aussi la place de l'hélicoptère et l'aspect divin céleste pour argumenter son propos.
C'est vrai que j'ai ressenti moi la même impression que toi d'être dans un genre de jeu vidéo.
C'est vrai, il y a du jeu vidéo
que je pouvais contrôler en fait presque. Et tu le dis au final après les images
parlent
pour nous et choisissent pour nous.
Cette dernière mention du titre qui s'appelle donc Il n'y aura plus de nuit. C'est aussi, ça se finit sur des images qui ne sont pas des images guerrières et je trouve ça fascinant cette fin.
Alors oui, je voulais pas divulguer mais même avant ces images dont tu parles, il y a une inversion de ce rapport entre ciel et terre. J'en dis pas plus, mais que j'ai trouvé génial.
C'est parmi les plus... Enfin, cette année, j'ai rarement vu d'aussi belles images au cinéma. Donc, on n'en dira pas plus. Et on vous encourage à foncer le voir. C'est diffusé le 6 novembre à 15h45. Toujours forme des images. Il y aura évidemment une rencontre avec la réalisatrice Eleonore Weber, car il faut la nommer. Et c'est dans la catégorie « Les temps modernes ». Et on le rappelle, comme tous les films dont on a parlé aujourd'hui, ce sont des films qui sont en entrée libre, qui sont diffusés gratuitement. Et on vous conseille de réserver vos places avant, mais on vous conseille surtout d'aller voir ces films, que ce soit ceux dont on a parlé ou ceux dont on n'a pas parlé. Qu'après tout, la sélection qu'on a faite était parfois arbitraire, c'est parfois juste le sujet qui nous intéressait, parfois juste le réalisateur ou la réalisatrice qu'on connaissait. Donc on vous encourage en tout cas à voir pas mal de documentaires pendant ce week-end.
Et je crois que certains de ces films seront disponibles ensuite sur MK2.
C'est ça.
MK2 Curiosity.
Je ne sais pas si c'est encore une sélection seulement qui sera faite ou tous les films qui seront diffusés, mais sera diffusé donc sur le site de MK2 Curiosity en accès gratuit. Donc je ne sais même pas s'il y a besoin de s'inscrire.
Non.
Du 8 au 23 novembre 2021. Donc si vous n'habitez pas à Paris, on vous conseille d'aller sur le site internet. Eh bien, c'est déjà la fin de cette revue de presse, enfin cette revue de films, de 8 films, des étoiles du documentaire de la SCAM. Est-ce que peut-être vous avez un petit favori à citer en dernier? Je vais commencer avec toi, Adeline.
Moi, ce sera Ne croyez surtout pas que je hurle, que j'ai beaucoup aimé.
Moi, évidemment, il n'y aura plus de nuit, qui est vraiment ma pépite. Mais juste en dehors de la sélection qu'on a faite, il y a aussi la cravate dont j'avais déjà parlé, dans une autre émission, donc sur ce militant FN, qui est dans la sélection, donc les étoiles de la SCAM, et que j'encourage fortement à aller voir.
Et ça aussi, d'un point de vue cinéma, c'est incroyable.
Il y a de la proposition, oui.
Toi, petit favori.
J'aurais pu mettre comme Lucas, il n'y aura plus de nuit, j'ai beaucoup hésité, mais finalement je crois que Abdel m'appelle et je vais mettre que l'amour en favori.
Bah, vu que vous avez cité chacun un film différent, je dois dire que ces deux derniers films cités m'ont beaucoup plu, mais je mettrais peut-être Péril sur la ville, car c'est peut-être le film le plus accessible directement. Donc peut-être commencer par un petit Péril sur la ville et enchaîner avec tous ces films, ça fera évidemment plaisir. Donc nous, on se quitte aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, donc tout le temps, et toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, etc. On est diffusé tous les mois aussi sur Radio Campus Paris en direct. On en profite pour remercier donc toute l'équipe de Radio Campus Paris qui nous a permis de participer à cette émission spéciale. On remercie aussi la SCAM de leur confiance. Et on remercie Victor à la technique qui s'est démené pour qu'on puisse avoir du son tout simplement aujourd'hui.
Je vous en prie, c'est mon travail.
D'ici là, on se donne rendez-vous le 14 novembre prochain pour une émission qui sera centrée encore une fois sur un documentaire. Et quel documentaire ? Ça sera Grizzly Man de Werner Herzog. Ça sera le 14 novembre. À bientôt.
Bon festival.
Bisous.